Et vous êtes toujours avec nous sur Beck FM 106.1. Vous le savez maintenant, après le journal, c'est l'heure de CDLP, C'est dans les parages, l'émission où je reçois tous les jours acteurs et actrices qui font l'actualité dans notre beau département nivernais. CDLP spécial aujourd'hui puisque nous sommes en plein dans la semaine de la presse à l'école et pour l'occasion, Beck FM a la chance de recevoir une pointure du journalisme indépendant. Salut Jérémy Demey.
Bonjour.
Tu es journaliste indépendant, tu as fait de l'investigation, tu es membre du conseil d'administration informé des pas un délit et de l'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir.
Alors, pour commencer, moi je voulais un peu connaître ton parcours de journaliste. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier? Comment tu as voulu le faire, quelque part?
Je crois que j'ai toujours voulu faire journaliste. En fait, c'était dès l'école primaire. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, mais sinon je voulais soit être prof d'histoire, soit maître chien ou journaliste, et finalement j'ai choisi le métier de journaliste. Ensuite, arrivé au collège, où j'étais au collège Henri Vallon à Varennes-Vauzelles, j'ai participé à la création d'un journal qui s'appelait le journal Graffiti à l'époque, qu'on vendait, ça va parler aux anciens, 2 francs. Donc voilà, c'était, on pouvait faire tous les types de sujets. J'avais participé aussi à un projet académique d'une télévision collégienne, ça c'était en 4e. Arrivé au lycée, j'étais d'abord au lycée Jules Renard et ensuite j'étais dans ce bel établissement qui est le lycée Raoul Follereau, où j'ai eu la chance de pouvoir intégrer Bac FM, où je faisais une émission de musique, une émission de débat, une émission de sport, enfin bref, beaucoup de choses. Et dans le même temps, j'avais intégré le journal Typo, qui était un journal de l'académie, qui était diffusé dans les 4 départements de la Bourgogne. On avait une page magazine mensuelle diffusée dans la PQR, donc nous c'était évidemment dans le journal du centre. Et depuis, le journalisme ne m'a jamais lâché. Quand j'étais étudiant à Dijon notamment, j'étais à Radio Campus, mais j'étais aussi à France Bleu Bourgogne, où je commentais les matchs de football notamment. J'ai longtemps été pigiste aussi sportif à France 3 Bourgogne. C'était que France 3 Bourgogne, des fois parfois un petit peu aussi en Franche-Comté. Donc bref, voilà, j'ai toujours aimé ce métier, toujours eu envie de le faire, et d'ailleurs je crois que je ne sais faire que ça.
C'est quoi ton regard sur le monde de l'information aujourd'hui? Moi, je sens comme une forme de dualité presque entre les médias privés, parfois dirigés par des milliardaires avec des idées idéologiques très claires. Et évidemment, il y a le service public avec France Télévisions, il y a la presse, je dirais, traditionnelle, Libération, Le Figaro, La Croix et j'en passe. Et des nouveaux médias type Blast ou Basta. Toi, c'est quoi ton regard sur le monde de l'information en 2026 et en France?
C'est que le exercer son métier de journaliste devient de plus en plus compliqué puisque les espaces de liberté deviennent de plus en plus limités. Alors oui, il y a plein de nouveaux médias qui se créent. Il y a eu Mediapart, il y a Blast, il y a Basta, il y a Rue 89 Strasbourg, Rue 89 Lyon, il y a Mediacité. Enfin, tout ça, ce sont des médias sur Internet. Donc d'un côté, on peut se dire qu'il y a plein de nouveaux supports. De l'autre, bien moi, je trouve qu'il y en a de moins en moins parce que pour être journaliste, il faut aussi pouvoir être rémunéré à la hauteur de l'investissement, du travail. Et souvent, les nouveaux médias peinent à bien rémunérer, pour le coup. Donc c'est vrai que c'est vraiment, vraiment pas simple. Ensuite, sur la dualité entre les privés et le public, ça ne vous aura pas échappé qu'il y a une commission d'enquête parlementaire actuellement à l'Assemblée nationale qui s'interroge sur la réelle indépendance des médias publics. L'objectif derrière, et notamment par son rapporteur, qui est un député UDR, donc de parti d'Éric Ciotti, donc affilié à l'extrême droite du Rassemblement National, eux, ce qu'ils veulent, c'est clairement privatiser l'audiovisuel public, et s'il y a une privatisation de l'audiovisuel public, c'est-à-dire qu'il n'existera plus, et notamment en région, ça sera une catastrophe, puisque le pluralisme, qui est déjà très peu présent, va complètement disparaître. Donc c'est vraiment très compliqué, ne serait-ce que pour vivre de son métier et trouver des espaces de liberté d'expression adéquates par rapport à ce qu'on veut en faire. Dans un second temps, il y a aussi les espaces de liberté d'expression au-delà des supports qui eux aussi se réduisent. J'entends par là les atteintes qui peuvent exister, notamment au niveau législatif, sur le secret des sources, le secret des affaires, le secret défense. Ça devient vraiment de plus en plus compliqué et il y a aussi beaucoup de procédures bâillon qui arrivent et qui musellent complètement les rédactions.
Peut-être procédure bâillon pour les gens qui nous écoutent.
Oui, alors les procédures Bayon, c'est quand il y a une multiplication en fait de procédures pour faire taire un média ou faire taire un journaliste. Alors quand on bosse pour des grands médias comme ceux de Radio France ou de France Télévisions, ça peut le faire parce qu'ils ont quand même un service juridique qui est assez conséquent. Moi, je l'ai déjà utilisé, donc je sais de quoi je parle. Mais quand on est dans un petit média et qu'on a une procédure en diffamation, c'est très compliqué des fois de s'en relever, même si la procédure n'aboutit pas, même si la plainte est retirée 2 ou 3 jours avant le procès, eh bien il y a quand même des frais d'avocat engagés et qui ne sont jamais remboursés. Donc c'est extrêmement compliqué.
Tout à l'heure, quand tu parlais de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, je crois que tu faisais référence au rapporteur UDR, effectivement Charles-Henri Alloncle, qui a pour projet dans son groupe politique de privatiser le service public. Effectivement, ça c'était pour la petite précision. Tu œuvres beaucoup pour la liberté de la presse, en tout cas on le sent dans ton discours. Je crois que selon le classement de Reporters sans frontières, on est 25e. On perd des places d'année en année. L'année dernière on était 21e, là on est 25. Comment ça s'explique? Est-ce que toi-même tu as déjà reçu des pressions par exemple?
Oui, c'est bon. Après, moi, je prends ça un petit peu avec distance. Ça fait partie des risques du métier. Et même en fait, quand je reçois des coups de pression, ça m'indique que finalement, je gratte dans le bon sens. Donc, mais oui, moi, j'ai déjà eu beaucoup de procédures en diffamation. Je crois que j'en suis à 5 ou 6. Bon, moi, ça fait quand même quelques années aussi que je fais ce métier. Donc, c'est toujours embêtant parce que c'est très chronophage à préparer la défense, ça coûte de l'argent pour le média pour lequel on travaille, et même quand ça coûte entre guillemets de l'argent mais que c'est largement amorti par la structure. Ouais, mes deux dernières procédures en diffamation, c'était avec j'étais soutenu par Radio France, donc les questions financières ne rentraient pas tellement en ligne de compte. Mais c'est vrai que c'est extrêmement chronophage parce qu'on est obligé de se prolonger complètement dans le dossier, et on est obligé de tout retrouver, du pourquoi, du comment et ainsi de suite. Ensuite, il faut faire des notes aux avocats, il y a beaucoup de d'aller-retour avec les avocats, enfin bref, ça prend un temps fou pour rien, enfin la plupart du temps pour rien. Alors, je ne dis pas que la procédure en diffamation, que mon propos soit clair, soit complètement illégitime. C'est complètement normal en démocratie que une personne qui a été attaquée par la presse, attaquée ou en tout cas citée dans la presse, puisse se défendre. Ça fait partie du jeu démocratique. Mais ce qui devient de plus en plus dérangeant, c'est le fait de ces accumulations de procédures. Moi, par exemple, sur mes dernières procédures en diffamation, c'était deux plaintes en diffamation sur la même enquête. Donc ça faisait 2 mises en examen, ça faisait 2 procédures, tout était multiplié par 2 pour rien du tout, puisque bon, j'ai eu un non-lieu dans les deux. Il y a même pas eu j'ai même pas eu la chance d'aller jusqu'au procès, mais voilà, ça prend du temps et c'est pénible.
C'est un portrait assez sombre qu'on dessine du journalisme depuis le début de cette interview. Il y a des lycéens et des lycéennes qui nous écoutent, hein, on est dans la semaine de la presse à l'école. Est-ce que tu aurais quand même des conseils à leur donner pour les jeunes qui veulent exercer ce métier?
Bien sûr, parce que ça, alors effectivement, ce n'est pas facile de faire ce métier, pour toutes les raisons que j'ai pu évoquer tout à l'heure, mais ça reste pour moi l'un des plus beaux métiers du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes un des rouages essentiels de la démocratie. C'est pas une formule tout faite de dire ça, c'est réel. C'est ce qu'on appelle un contre-pouvoir. Et en fait, notre métier, c'est tout simplement d'être un lien entre l'information et l'informé. Et nous devons donner des clés de compréhension pour qu'ils puissent décrypter le monde qui les entoure. Et moi, j'espère toujours très naïvement, je reste un grand utopiste, qu'en lisant la presse et en lisant tous les styles de presse, on peut lire à la fois tous les jours Le Figaro, Le Monde, Libération, L'Humanité, sans avoir besoin de coloration politique, mais ça nous apporte une vraie richesse intellectuelle, ce qui nous permet peut-être in fine de mieux voter ou moins mal voter une fois qu'on est dans l'isoloir. Donc c'est vraiment primordial et c'est génial quand même de pouvoir rencontrer tous les gens qu'on peut rencontrer. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Enfin, j'ai vraiment presque pas de mots pour décrire à tel point ce métier est magnifique. Après, oui, c'est très dur. C'est très dur déjà de rentrer dans le métier, et ça l'est de plus en plus. C'est pas facile de gagner sa vie en étant journaliste, même quand on est en CDI dans un journal. Il faut savoir que la carrière moyenne d'un journaliste, c'est 13 ans. Donc c'est très court. mais c'est un métier qui nécessite du courage et des convictions. Sans parler de politique, mais vraiment des convictions de démocratie et de la beauté de la démocratie. Ça vous aura pas échappé que la démocratie est de plus en plus mise à mal. Je vous rappelle les propos de Bruno Retailleau quand il était encore place Beauvau, quand il était ministre de l'Intérieur, qui expliquait que bon, l'état de droit, en gros, ça pouvait être optionnel. C'est une gravité sans nom, ce type de déclaration, parce que s'il n'y a plus d'état de droit, il n'y a plus de démocratie. S'il n'y a plus de démocratie, c'est tout le vivre ensemble qui est attaqué. Donc, c'est à nous, quand on est journaliste, de défendre tout ça. Mais c'est aussi aux citoyens de comprendre la fragilité de tout ce système, et c'est pour ça que c'est aux citoyens aussi de s'emparer de la presse, de lire la presse, d'acheter les journaux. Il suffit pas de regarder 3 vidéos sur les réseaux sociaux pour se sentir bien informé. L'information, c'est un choix, ce sont des angles, c'est vraiment un choix dans la formation, et pour ça, nous avons besoin des lecteurs et des citoyens.
Les citoyens doivent s'emparer de l'information. Il y en a d'autres qui s'emparent de l'information. C'est les milliardaires d'extrême droite. Vincent Bolloré dit clairement qu'il mène une bataille idéologique avec CNews, le JDD Europe 1. D'autres, Pierre-Édouard Sterrin notamment, ça a été révélé par nos confrères de l'Humanité, via son plan Périclès, une sorte de plan financier pour faire gagner l'extrême droite à plusieurs sortes d'élections via de la propagande, tout simplement. Est-ce que la concentration des médias, c'est-à-dire le fait que beaucoup de médias soient régis par très peu de personnes, et particulièrement des milliardaires, est inquiétant pour la démocratie?
Bien sûr, parce que, alors derrière, oui, il y a effectivement des idées ultra-réactionnaires et d'extrême droite, que ce soit, comme vous l'avez dit, de Bolloré ou de Pierre-Antoine Sterrin. Pierre-Édouard, toujours du mal avec ces noms composés. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que leurs idées sont antidémocratiques, on va parler franchement. Mais derrière, il y a aussi d'autres personnes qu'on entend un tout petit peu moins, mais qui ont peut-être pas des idées d'extrême droite, mais des idées vraiment néolibérales. Donc ça peut tuer aussi une partie du discours. Je pense à Rodolphe Saadé, par exemple, qui est lui un milliardaire qui a fait fortune dans le transport maritime, mais qui a acheté BFM Télé, RMC, la Provence, dans le sud de la France. Et on voit que les élections à Marseille sont extrêmement tendues. Donc il y a tout aussi ces personnages. Il y a Xavier Niel aussi, il y a Mathieu Pigas. Alors Mathieu Pigas, lui, se prend, et certainement à raison, comme le Chevalier Blanc, justement, contre tous ces ultra-réactionnaires milliardaires. C'est lui qui a acheté notamment Radio Nova, avec les espaces de liberté qu'il offre pour l'instant, parce que moi je préfère juger sur pièce à ces différents journalistes et chroniqueurs. Mais tout ça, ça tue la démocratie, ça tue la diversité, ça tue le pluralisme. On le voit avec cet exemple caricatural qui est Vincent Bolloré. Donc lui, non seulement il a acheté des médias, papier, radio et télé, mais il a aussi des maisons d'édition. Faut savoir que les journalistes, oui, notamment Fayard, mais des maisons d'édition qui éditent aussi, entre autres, les livres scolaires. C'est peut-être un détail, mais quand on commence à éditer les livres scolaires, on met la main dans les livres scolaires. Un petit détail qui avait été ressorti dans le livre de Chapoutot, Les Irresponsables, il y a quelques années, dans les livres scolaires, on expliquait la montée d'Hitler en Allemagne dans les années 30. Et dedans, c'était expliqué clairement, à l'époque, qu'est-ce qu'on expliquait notamment aux lycéens, que c'était la bourgeoisie et les milieux d'affaires qui ont offert le pouvoir à Adolf Hitler. Ils pensaient naïvement pouvoir le contrôler et surtout faire barrage aux bolcheviks et aux communistes. Ça, maintenant, ça a complètement disparu des livres d'histoire. Alors oui, certes, il y a le programme qui est distillé par le ministère de l'Éducation, mais derrière, il y a aussi les éditeurs. Donc bref, c'est vraiment tout cet environnement qui est très problématique. Pour revenir sur les maisons d'édition, beaucoup de journalistes, une fois qu'ils ont terminé une enquête qui peut être publiée dans un journal papier ou à la radio ou à la télé, bah, très souvent, ils la complètent avec la sortie d'un livre. Mais s'il n'y a plus de maison d'édition pour sortir ces livres, comment les informations vont pouvoir ressortir? Alors, je vous rassure, il reste toujours quelques maisons d'édition indépendantes, mais il y en a de moins en moins. C'est la même chose pour les médias. Et c'est très grave. Le pluralisme, c'est vraiment une des valeurs fondamentales pour la démocratie. Parce que la Déclaration européenne des droits de l'homme dit quelque chose de très clair, c'est que tout doit être fait pour garantir un accès libre aux citoyens et une presse libre et indépendante. Et s'il y a la concentration des médias, la presse n'est plus libre et n'est plus indépendante.
On a parlé de beaucoup de menaces, hein. Je ne sais pas si tu suis avec attention tous les ans le baromètre de La Croix qui publie une sorte de confiance des citoyens envers les médias qui baisse, hein, d'année en année, parallèlement d'ailleurs avec celle des politiques. Toi, quel conseil tu donnerais aux jeunes qui nous écoutent pour, au final, mieux s'informer ?
Déjà, lisez la presse. Lire la presse, qu'elle soit sur papier ou sur Internet, c'est absolument nécessaire. Il ne faut pas tomber dans le piège de « je m'informe librement, je suis à même moi-même de faire la hiérarchie de l'information », c'est-à-dire savoir ce qui est réellement important de ce qui ne l'est pas, en regardant des chaînes comme on peut trouver notamment sur YouTube ou sur certains blogs. Parce que ça, ce sont des informations qui ne tournent qu'en boucle et qui ne vont jamais vous sortir de votre zone de confort intellectuel. Il faut lire un maximum la presse, écouter la radio. Il reste des bonnes radios.
Il y a Bac FM.
Il y a Bac FM, évidemment. Mais il y a aussi Radio Nova, pour le coup, sur le côté peut-être plus humoristique, plus satirique. Mais je pense à l'émission La Dernière, dirigée par Guillaume Meurice. Il y a quand même des informations. Alors oui, c'est très orienté politiquement. Mais une fois qu'on le sait, même si on est de droite, on peut écouter aussi. Moi, je sais que je lis et j'écoute tous les médias, pour le coup. Même CNews. Pourquoi j'écoute CNews ? Ça me permet de comprendre comment ces gens-là regardent l'information et comment ils trafiquent l'information, comment ils l'orientent à des fins clairement politiques et idéologiques. Mais c'est vraiment intéressant aussi de pouvoir voir tout ça. Et surtout, la chose primordiale, c'est de rester curieux et surtout de développer son esprit critique. L'esprit critique, c'est vraiment indispensable à la citoyenneté et à la démocratie.
Indispensable à la citoyenneté et à la démocratie. Est-ce que ces presses que tu conseilles de lire doivent s'adapter aussi au temps qui court, finalement les formats changent. Je sais que l'Humanité a lancé il y a quelques mois, peut-être même quelques années maintenant, sa plateforme sur Twitch, son émission sur Twitch, devrais-je dire. Mediapart fait à l'air libre son émission sur YouTube depuis un moment aussi. Est-ce que passer par Twitch, par TikTok, et aussi par YouTube, même si c'est un peu moins nouveau, est important pour la presse?
Oui, et ça permet en fait de toucher des nouveaux publics qui n'ont plus forcément ce réflexe de lecture, notamment de lecture sur papier. C'est pour ça que la presse papier s'effondre, parce qu'il y a de moins en moins de lecteurs qui font l'effort d'aller chez un buraliste ou dans un kiosque pour aller acheter un journal. Après, on va pas leur reprocher non plus, quand on voit le prix qui n'arrête pas d'augmenter des journaux, acheter un journal papier, ça représente un vrai budget. Et ça vous aura pas échappé non plus que les portefeuilles, malheureusement, sont de moins en moins extensibles, sauf si on est milliardaire, parce que là, on a de la chance de voir notre fortune qui double assez régulièrement. Mais blague à part, c'est très intéressant de pouvoir aller sur Twitch, sur YouTube, éventuellement sur TikTok, même si les vidéos me semblent un peu trop courtes pour réellement comprendre ce qui s'y passe. Mais surtout, il faut avoir des médias qui développent l'esprit critique. C'est vraiment ça qui est intéressant. Si c'est pour rajouter du bruit au brouhaha, si c'est pour avoir une information qu'on a déjà vue non-stop, si c'est pour avoir une information qui est tellement manipulée que ce n'est plus d'information, ça s'appelle de la propagande. Là, il faut faire attention. Mais oui, aller sur les vidéos de Mediapart, de Blast aussi, qui font des super vidéos. Il y a Disclose aussi, qui est que sur Internet, qui font des reportages extraordinaires et des enquêtes extraordinaires. Bref, il y a vraiment le même Street Press, il y a tout un tas de supports maintenant qui se sont développés, qui permettent de toucher un nouveau public qui n'a pas forcément le réflexe d'aller sur du papier.
Toi qui connais un peu le sujet quand même, je voulais avoir ton regard aussi sur ces espèces d'influenceurs qui parlent d'actualité. Alors Hugo Décrypte, hein, c'est le plus connu. Je dis influenceur parce que lui-même, je crois, ne se définit pas comme journaliste, même s'il a des journalistes dans son équipe. Dans les Fugues qui montent aussi, il y a aussi Samuel Etienne, longtemps présentateur de Questions pour un champion et de la matinale de France Info, qui maintenant fait des revues de presse tous les matins sur Twitch. C'est quoi ton regard sur ces influenceurs-là qui sont très suivis ?
Alors, Samuel Etienne, au moins, il a l'avantage, c'est d'avoir été formé au journalisme. Je ne dis pas qu'il est forcément obligatoire de sortir d'une école de journalisme, et que quand on sort d'une école de journalisme, forcément, on est un bon journaliste. Ça, c'est absolument pas vrai. Même si l'école a quand même des avantages, pour le coup. Moi, j'ai fait l'IPJ à Paris, et je ne me verrais pas cracher sur les écoles qui m'ont quand même formé, pour le coup. Mais il a au moins cette formation de savoir hiérarchiser l'information et de devoir donner des clés de compréhension pour décrypter cette information. Sur Hugo Décrypte, je suis un peu plus réservé parce que il décrypte bien, et ça tombe bien, c'est le nom de son média, l'actualité, mais parfois il y a eu des programmes qui ont été sponsorisés. Et là, moi, ça me dérange quand même un petit peu plus. Sur les autres styles d'influenceurs, là, c'est une catastrophe parce que la majorité, eux, sont clairement influencés. On le voit, il y en a beaucoup qui sont partis en Israël au moment du... et qui perdure, hein, d'ailleurs, au moment de cette guerre entre le Hamas et Israël, pour dire qu'Israël, voilà, ils étaient cool, il n'y avait pas de souci. Bon, ils ont juste affamé et massacré des dizaines de milliers de Gazaouis, mais bon, ça va, ils étaient cool, c'était sympa. Là, il y en a beaucoup qui arrivent en Chine maintenant aussi. J'ai vu un article assez récemment là-dessus pour expliquer que le régime chinois est vraiment formidable. Il n'est pas forcément extraordinaire, le régime chinois. Il suffit d'essayer de faire du journalisme là-bas et de connaître un petit peu plus la situation pour s'apercevoir que la liberté d'expression n'est pas forcément dans les gènes de ce régime. Donc, il faut toujours faire attention de voir qui vous parle et de comment il parle. Si vous voyez un placement de produit, s'il y a aucun esprit critique, et si la présentation est toujours toute belle, toute rose, c'est qu'il y a un loup quelque part. Il faut toujours chercher l'honnêteté. L'objectivité n'existe pas, donc ça sert à rien de vouloir chercher le Graal, ça sert à rien. Mais en revanche, il faut que ça soit un média honnête.
Ça, tu viens de soulever un point important. Il y a beaucoup de gens qui sont peut-être pas spécialement spécialistes du journalisme, qui savent pas spécialement comment on fait un article, un papier radio ou ce genre de choses, qui recherchent beaucoup la neutralité, l'objectivité. Et pour reprendre les mots de Samuel Etienne, c'est un attrape-nigaud en fait. À partir du moment où on choisit un mot plutôt qu'un autre, on est déjà plus objectif. À partir du moment où on choisit une interview plutôt qu'une autre, on est plus objectif.
Bien sûr.
Toi, comment tu perçois la chose, ouais?
La neutralité n'existe pas dans le journalisme. Et ceux qui tendent à la neutralité disent « c'est confortable parce que je ne fais pas de choix ». Or, la neutralité, c'est déjà un choix. Et la neutralité, malheureusement, ne sert que les puissants. Ça, il faut bien l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'on croira plus quelqu'un qui porte un costard-cravate plutôt qu'un SDF. Mais le SDF peut raconter aussi une vraie histoire avec des vrais faits, un vrai témoignage. Ensuite, le journalisme, c'est une question de point de vue. On peut décrire, moi je fais souvent des interventions en milieu scolaire, et souvent je demande aux élèves, alors moi je suis de côté du tableau, là où se place d'habitude leur prof, et je leur demande de décrire ce qu'ils voient. Et ce qu'ils voient, c'est éventuellement deux, trois têtes devant, et un gugus qui parle devant le tableau. Et moi je leur dis, bah moi ce que je vois, c'est plein de visages devant moi, puis à la fin il y a un mur. Pourtant, nous sommes dans la même situation, nous sommes dans la même pièce, nous sommes dans le même temps. Or, nous n'avons pas la même description de ce même moment, parce que nous n'avons pas le même point de vue. Et ça, c'est absolument nécessaire que les gens comprennent ça. Non, un journaliste ne doit pas être neutre. Non, un journaliste ne peut pas être objectif. En revanche, il a le devoir impérieux d'être honnête et de ne pas mentir, de ne jamais mentir, même si ça dessert sa cause. Moi, souvent, quand je pars sur une enquête ou sur un reportage, j'ai comme tout le monde des a priori, ce qui est complètement légitime. Mais si mes a priori sont confirmés par les faits que je peux rencontrer, les différents témoignages, les différents documents, bah c'est comme ça. Mais si à l'inverse, ça démonte tous mes a priori, je suis très content, parce que au moins voilà, ça me prouve que j'ai tout fait pour rester honnête.
Eh ben, j'espère que Barbara Lefebvre ou Pascal Pro écoutent tes sages propos.
Journaliste, ça c'est une autre question.
C'est la semaine de la presse à l'école, je le disais tout à l'heure, j'aimerais terminer par cette question. Comment on devient journaliste, Jérémy Demey?
Alors pour être journaliste, contrairement à beaucoup de professions, il n'y a pas d'études obligatoires. Je m'explique, par exemple, pour être médecin, il est obligatoire d'avoir un doctorat de médecine. Pareil pour différents métiers, on est obligé d'avoir un certain niveau de diplôme et même des diplômes des fois très précis. Pour être journaliste, on n'est pas obligé d'avoir de diplôme. C'est mieux d'en avoir, mais on peut sortir d'université, d'avoir fait une fac de lettres, d'avoir fait une fac d'histoire, une fac de droit ou toutes sortes d'universités. Mais on peut aussi avoir fait une école d'architecture. Moi, je connais des très bons journalistes qui, à la base, sont architectes. D'autres, ce sont des anciens médecins, des anciens profs. On peut même avoir fait une école de commerce. Enfin, bref, toutes les études supérieures peuvent vraiment ouvrir au journalisme. Ce qu'il faut pour devenir journaliste, c'est vraiment d'avoir cette curiosité vraiment attachée à notre conscience et à notre habitude, être entre guillemets drogué à l'information, c'est-à-dire devoir toujours aimer être informé. Moi, je sais que quand je suis en vacances, avant de me rendre sur mon lieu de vacances, je me renseigne déjà sur l'endroit, sur la région, sur ceci, sur cela. Et quand j'y vais, je vais toujours lire le journal du coin, puis je vais parler à des gens. C'est plus fort que moi. Il faut que cette curiosité soit un réflexe, et un réflexe presque vital. Moi, c'est pour ça que je ne sais faire que ce métier, parce que je me verrais pas faire d'autres métiers pour le coup. Donc il faut être curieux, il faut avoir un vrai esprit critique, un vrai recul, et surtout garder la tête froide et éviter le plus possible d'avoir le melon. C'est pas parce qu'on voit notre tronche à la télé ou qu'il y a notre nom décrit dans un journal que tout de suite, nous devenons des notables du coin. Parce que ça, c'est un vrai danger pour le journalisme, c'est la notabilisation. Quand on commence à tutoyer le maire, à être copain avec un député, puis des fois même l'appeler, lui dire, ben, viens, je viens d'avoir des enfants, est-ce qu'il y a une place dans la crèche? Oui, t'inquiète, je le fais. Non, il faut rester à sa place, nous ne sommes que des simples citoyens, comme tout le monde, mais des citoyens curieux qui se sentent concernés par l'avenir démocratique.
Merci infiniment, Jérémy Demey, d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail, ton actu, un peu de pub, ça fait jamais de mal?
Moi, je fais pas trop de pub. J'avoue, sur les réseaux sociaux, je mets pas grand-chose. Sur mon LinkedIn, ça fait au moins 2 ou 3 ans qu'il bouge plus. mais non, sinon, on peut me retrouver, on peut me retrouver sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté tous les mercredis matins à partir de 9h15, où je fais une chronique qui, pour le coup, est une bulle de respiration dans ma semaine. C'est une chronique sur le monde canin, les chiens.
Ah oui, ça rejoint ce que tu nous disais en intro, voilà, sur ton autre vocation si tu n'avais pas fait journaliste.
Voilà, exactement.
Et ben merci encore à toi. Pour Bac FM, merci. On est sur Insta et Facebook, @BacFM tout simplement, et toutes nos émissions sont disponibles en podcast, www.radiobacfm.fr. Cette émission est maintenant terminée, c'est tout de suite le retour de la musique rock et metal sur Bac FM, c'est parti.